Europe Matin Weekend, Sébastien Guyot.
Le Club Culture, j'accueille avec grand plaisir Diane Chénouda et Nicolas Caro. Bonjour Diane.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Bonjour Nicolas.
Bonjour Sébastien.
Littérature bien entendu avec vous dans un instant. Mais d'abord, une expo avec vous Diane.
Oui.
Elles sont fermées en ce moment,
mais
grâce à vous, on va pouvoir voir de la musique et de la peinture. Les musiques de Picasso, c'est une expo à découvrir sur le site, bien sûr, de la Philharmonie.
Absolument. Picasso est tombé dans la musique depuis tout petit en Espagne, pas seulement tombé dans la peinture. Il a toujours été entouré de chanteurs et de musiciens. Il aimait les musiques populaires de son pays, à commencer par le flamenco de son Andalousie natale. Picasso aimait les musiques de rue, de fanfare aussi et de corrida. Plus tard à Paris, il va découvrir l'atmosphère des cabarets, des cafés-concerts de Montmartre, puis les musiques de cirque et de cinéma et le jazz. Picasso va être baigné toute sa vie au fond par la musique et le chant, même si lui, contrairement à d'autres peintres, ne peint pas en musique dans son atelier.
Alors il ne peint pas en musique dans son atelier, mais la musique traverse toute son œuvre. C'est ce que montre cette expo, Diane.
Oui, absolument, Sébastien, à travers 200 œuvres, peinture, dessin, sculpture, céramique. Alors bien sûr, tout ça en musique. Ça va des premières scènes de La Vie Gitane aux joueurs de flûte de la fin de sa vie à Mougins sur
bien
la Côte d'Azur. Que vous connaissez, en passant par un arlequin à la guitare, puis ses guitares et ses violons cubistes que l'on connaît tous aussi, et puis ses muses avec cette femme au tambourin pleine de grâce. Picasso représente la musique telle qu'il la voit, c'est très concret. Ses peintures sont peuplées de danseuses, chanteurs, musiciens.
Et il crée aussi des décors de ballet, je crois.
Oui, complètement. On a ici des costumes et des décors, un rideau de scène aussi qu'il a créé pour l'opéra. Il y a même une vingtaine d'instruments de musique qui appartenaient à Picasso lui-même, qu'il allait chiner aux puces, des mandolines, des clairons, des trompettes, des tambourins. Il va même jusqu'à peindre sur les peaux de tambourins au début de sa vie.
Ça donne très envie, Diane Chénouda. Alors j'imagine que forcément, on ne peut pas les voir, on ne peut pas les toucher, encore moins bien entendu.
Non, mais on peut les voir,
on peut
zoomer, les découvrir,
c'est
absolument,
ça, sur
les
l'écran et bien voir ça, tout en écoutant cette musique.
Oui. C'est très bien fait quand même.
Oui. La musique de Picasso, à voir et à écouter sur le site de la Philharmonie. Merci Diane. Je me tourne vers vous maintenant, mon cher Nicolas, pour votre livre du jour. Et je l'ai entre les mains. Ça me donne très envie. Dictionnaire amoureux de l'inutile par le père
François
et le fils.
Et Valentin Morel, effectivement, le père et le fils, c'est chez Plon. En fait, ils ont compilé tous les trucs qui servent à rien, mais qu'on adore. Alors, c'est un dictionnaire, ça commence par le A comme apéritif. L'article commence par cette phrase, on n'y pense pas assez. À quel moment dans l'histoire des hommes a-t-on commencé à entendre cette phrase ? Passez donc prendre l'apéritif.
Ah oui, bien
c'est
entendu.
Vrai, quand on y pense.
Et alors, on ne sait
ça
pas, mais on s'en fiche.
Une belle conversation d'apéro d'ailleurs. Le suivant, c'est l'appendicite, qui ne sert à rien évidemment. Il y a les bigorneaux, mais alors plus particulièrement le lancer de bigorneaux. Ça existe, c'est inutile, mais comme toutes les compétitions sportives, c'est la conclusion de Morel père et fils. Il y a les calembours, qui est un prétexte en fait chez les Morel pour nous en servir quelques-uns, des Unes de Libé au nom de personnages de BD, Is No Good, Astérix, au calembour littéraire d'Éric Chevillard, tu ne fais pas ton nuage, tu parais plus vieux.
Ah, c'est pas mal.
Il y a du Queneau aussi, bon bref.
Bien sûr.
Il y a les caméos d'Alfred Hitchcock. Vous savez, les caméos, c'est quand Alfred Hitchcock passe dans le film.
Une seconde ou deux.
Oui, une seconde, une petite figuration comme
sûr.
Ça. On s'amuse à les retrouver dans les films.
Ouais.
C'est super. Il y a les châteaux de sable qui ne servent à rien non plus. Mais alors, ils font la différence entre les châteaux de sable, on prend le temps, etc., et les pâtés de sable qui ne servent qu'à être écrasés la seconde d'après, une fois qu'ils sont construits. Et alors, il parle aussi d'un savant américain qui a conçu une formule mathématique qui calcule le point de stabilité d'une colonne de sable humide. Je vous la note, c'est très simple.
Totalement inutile.
Notez, H égale facteur de 9J au carré par un tiers sur 16. Vous multipliez ça avec GR au carré sur PG et tout ça évidemment
Diane,
à la puissance un tiers.
Oh là là.
Vous avez noté.
Ce qui est beau est inutile.
Voilà, exactement. Le concombre de mer qui s'appelle l'holothurie. Tyr, dans sa version scientifique, et qui était en fait une cousine moche de l'étoile de mer de Morel. Il y a les parenthèses chez Jainada, Philippe Jainada, oui, l'écrivain, l'auteur de La Serpe, Sulac, absolument, La Petite Femelle, grand écrivain, et qui sans arrêt effectivement fait des parenthèses et même des parenthèses dans les parenthèses. Et dans le dictionnaire, il y a une correspondance entre Jainada et Morel. Rien n'est plus indispensable que l'inutile, c'est la conclusion des Morel.
François Morel et son fils Valentin, le dictionnaire amoureux de l'inutile chez Plon. Merci Nicolas. Moi, je vais vous parler également de deux bouquins, deux livres, une BD et un roman. Si vous aimez la politique, vous allez être passionné dans les deux cas. La BD, c'est 1984, le mythique roman de George Orwell, adapté en bande dessinée par un Brésilien. Il s'appelle Fido Nesti. Il va avoir 50 ans l'année prochaine. Il a découvert 1984 en 1984, alors qu'il n'avait que 13 ans. Depuis, le monde dystopique, c'est-à-dire le monde utopique à l'envers, le pire qu'on puisse imaginer, le fascine, d'autant plus qu'il ressemble, selon lui, en partie à ce que vivent les Brésiliens depuis l'arrivée de Bolsonaro au pouvoir. Big Brother is watching you en BD, c'est donc chez Grasset. Et puis le fascisme en France dans les années 2025-2028, c'est de la politique fiction, mais comme l'écrit l'éditeur Robert Laffont, si rien n'est sûr, tout est vraisemblable. Ça s'appelle « Le brun et le rouge », signé Michel Cotta, grande voix d'Europe 1, et son acolyte Robert Namias, deux grands noms du journalisme qui fréquentent les arcanes du pouvoir depuis 4 ou 5 décennies maintenant. C'est extrêmement bien écrit, haletant, comme leur premier roman « Fake News » où un jeune président ni de droite, ni de gauche, était arrivé au pouvoir. Ça vous fait penser à quelqu'un?
Oui, oui, on voit bien.
Et bien cette fois, la présidente de la République, c'est une jeune femme d'extrême droite qui est proche de son grand-père
toute
aussi.
Ressemblance, enfin, bon,
voilà, toute ressemblance, ce n'est pas Marion Maréchal Le Pen, pas du tout. Roman polar de manipulation politique avec des rebondissements de chapitre en chapitre. Le brun et le rouge de Robert Namias et Michel Cotta chez Robert Laffont. 1984 de Fido Nesti chez Grasset. Merci Nicolas, merci Diane, merci à tous les deux.
Merci.
Merci à vous.